Il y a des tableaux de chasse à cour. Vous...
Oui, je chasse à cour, voilà.
Vous faites quoi dans la chasse à cour, vous?
Je suis bouton à l'équipage de Bonal à Rambouillet. Donc, je suis. Donc, nous sommes dans rouge. Et en chasse du 15 septembre au 30 mars. Ça occupe quand même deux fois par semaine. Que j'ai là aussi là, une autre passion, c'est le golf, voyez. C'est...
Chasse à cour et golf.
Chasse à cour, eh bien, c'est très complémentaire. Parce que la chasse à cour, c'est l'hiver et le golf, c'est plutôt l'été. Hein? C'est bon? C'est une chose qui est dans la continuité du BCBG, voilà.
Bonjour, écoutez, Daniel Mermet, bravo, quoi. C'est trop fort, le sketch. Non, c'est une blague, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est carrément ailleurs, quoi. C'est trop bien. Trop, trop bon.
Le rallye Neuilly.
Autrefois, nous avions nos clochards. Nous avions Alfred, qui habitait, je ne sais pas très bien où, mais enfin, qui était aimé, habillé, nourri par les gens du quartier, qui promenait sa poussette. C'était un personnage. Après, on en a eu un autre qui, malheureusement, a été un jour... ses copains l'ont arrosé d'essence et ont mis le feu, voilà. Enfin... Je pense qu'on est quand même assez privilégié.
C'est quelqu'un du 9-3 qui t'appelle, c'est Pascal, ouais. Donc, on est un peu dans le speed et dans des angoisses diverses et variées, mais alors là, ça détend, quoi, presque. Ça détend presque. Moi, j'aimerais bien savoir où il passe, ce spectacle, parce que j'y emmènerai quelques potes qui, franchement, je pense que ça peut donner envie de se marrer. Bravo à vous, parce que, franchement, trouver des pépites comme ça, c'est trop, trop beau, quoi. Ça détend un lundi après-midi un peu grisonnant en train de taffer. Merci, mesdames, de nous avoir fait rire. Salut.
Mon ami, sais-tu ce que c'est qu'un rallye? Non, eh bien, je veux te l'expliquer en 2 secondes.
C'est pas n'importe quoi, voilà. C'est toutes ces banlieues un peu privilégiées. Je pense que les gens ont quand même semblant de tenue, ouais, c'est ça. Enfin, il y a tout partout, hein, de toute façon. Mais c'est vrai qu'on en voit moins qu'ailleurs. Et puis, on a une population qui est arrivée, qui est assez drôle. Ce sont les nounous. Ça, vous en voyez ça dans les journaux. Les nounous ivoiriennes, maliennes, ou je sais pas quoi. Il y a un petit square, notamment derrière la mairie, où si vous y allez l'après-midi, c'est fascinant. J'y suis encore passée hier en prenant mes chiens autour de ce square. Il y avait des nounous très colorés. Mais c'est sympathique, je trouve, parce qu'en général, ces gens sont gays, gentils et... Ça amène un peu de couleur locale et puis ça change un peu, on voit autre chose. On voit quelquefois des femmes en boubou, vous savez. C'est joli, c'est merveilleux. Mais c'est une chose qui est dans la continuité du BCBG, voilà.
Non, elle m'a fait beaucoup, beaucoup rire, Madame Dumont de Neuilly. C'est vrai que le misérabilisme, moi, ça me fait pas trop rire, mais là, j'ai bien, bien rigolé, franchement. Un vrai sketch, quoi. C'est Rachida de Limoges.
Bon, allez, on va s'asseoir.
Oui.
Karine, allez, en route. On va peut-être avaler ça. Oui.
C'est quoi? Ça a l'air délicieux.
C'est des gambas aux trois champignons, avec du riz. Voilà, c'est tout.
C'est tout.
Je pense qu'on est quand même assez privilégié.
Voilà. Bon appétit. Merci. C'est délicieux.
Oui, bonjour, c'est Frédéric à l'appareil. Je viens d'écouter Madame Duquesnois, là, de Neuilly. Vendredi, elle m'avait fait sourire, enfin un peu sourire jaune. Là, aujourd'hui, elle m'a un peu donné la nausée. Et demain, si vous en faites une autre, là, j'ai carrément la gerbe. Hein. Notamment son regard condescendant sur les nounous africaines, là, c'est très gênant. Et alors sinon, son histoire de crevettes, là, parce que bon, les gambas, ce sont ni plus ni moins que des crevettes. Hein, c'est le mot un peu plus classe, peut-être, pour dire ça. Bon, les crevettes avec les champignons, moi, je trouve que ça se marie pas tellement. Voilà, allez, ciao.
Mais grâce aux écoles que nous avons, parce qu'il y a quand même des écoles qui sont quand même très très bien, Saint-Dominique, Sainte-Marie, enfin tout ça, ils sont tenus, quoi, voilà. Jusqu'à une certaine classe, on doit être correctement habillé. Les chaussures sans lacets ne sont pas admises, les baskets, il n'en est pas question. Il faut qu'il soit les jeans, c'est autorisé. On ne voit pas la peau entre le chandail et le truc. Il y a quand même un minimum. Alors on essaye de limiter les dégâts. Enfin, on n'a pas de dreadlocks, enfin j'en vois pas beaucoup.
Je vous avoue, j'en ai pas vu beaucoup à Neuilly.
Non, heureusement.
De look Kaira non plus.
Non.
Bonjour, je m'appelle Elsa, j'ai 18 ans. Je voulais juste réagir à certains propos de la dame et ses gambasses aux trois champignons. J'ai habité 15 ans dans le 9-3, comme vous dites, à Saint-Denis. Pourtant, j'ai eu une très bonne éducation. J'aime même lire et aller dans les musées. Je pense qu'il faut arrêter de généraliser sur les banlieues, qui sont dites plutôt chaudes. Des problèmes, il y en a, il y en aura toujours partout. Après, c'est sûr qu'il est plus facile de critiquer quand on habite à des centaines de kilomètres de la réalité. Dans le sens où tout le monde n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Tant mieux pour eux, personnellement, je me contente très bien de ce que j'ai et de ce que je n'ai pas. Et pour rien au monde, j'aurais aimé naître dans un univers où il n'y a aucune diversité des mœurs. Car excusez-moi, mais quand on dit à propos de personnes de différentes origines, ça amène un peu de couleur locale, c'est qu'il faut vraiment avoir l'esprit fermé. Donc j'espère que cette dame prendra un jour conscience que même en ayant des dreadlocks, en portant des jeans et des baskets au lycée, en habitant dans une cité où on ne connaît pas personnellement Monsieur Sarkozy, on peut très bien réussir sa vie. Et je voulais juste dire que pour moi, une personne est riche quand elle a autre chose à partager que son argent et sa propre image. Merci, au revoir.
Amuser, exécrer, révolter, voilà les réactions qu'on peut entendre sur le répondeur de la Bassi. J'y suis au 01 56 40 37 37 suite à la prestation spectaculaire de Madame Dumont de Neuilly qui a raconté tout ça à Guy Ventil. Neuilly, oui, on reste aujourd'hui encore un peu dans Neuilly, pas que dans Neuilly, on va s'intéresser à d'autres sujets en cours. Mais enfin, ça vous a plu, ça vous a étonné. Franchement, il y a certains auditeurs qui pensent que c'est un sketch, que c'est une comédienne qui a joué ça, le golf à l'île de Ré, tout ça, mais pas du tout. On vous promet, je vous jure, que cette personne existe, mais pas seulement elle, c'est tout un milieu, tout un monde que nous avons essayé de rencontrer avec Guy et avec nos deux amis sociologues, Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, qu'on va retrouver aussi un peu aujourd'hui. Et c'est vrai que au moment où se creusent les inégalités, au moment de l'angoisse sociale généralisée, c'est quelque chose qui surprend. Quoique l'angoisse sociale généralisée, ben on le voit là, elle n'est pas si généralisée que là. Il y a des endroits où il n'y a pas autant d'inquiétude qu'ailleurs, il n'y a pas autant de morosité qu'ailleurs. Et c'est pourquoi nous étions allés dans ce petit paradis, très proche d'ici, très proche d'ailleurs de la maison de la radio, mais qui semble très éloigné. Je ne crois pas tant que ça des réalités. Vous avez beaucoup dit, oui, ils sont éloignés des réalités. C'est pas si sûr. En tous les cas, c'est un monde fermé. On a assez facilement répété le ghetto du Gotha. Et c'est à peu près ça. Donc on va les retrouver. On va retrouver cet univers. Pas seulement aujourd'hui. En tout cas, voici d'autres messages sur le répondeur de la Bassi. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Hey, chers auditeurs de France Inter, si on allait se faire bronzer au Cachemire? Non, parce que par les temps qui courent, il faut du touriste bien blanc pour attirer la compassion des médias. Bon, allez, courage, pauvres Pakistanais. Quand vous serez tous morts, on vous enverra des sous.
Alors, je vous appelle parce que je suis demandeur d'emploi et que ce matin, j'étais, comme tous les 6 mois, appelée à un contrôle à la NPE auquel je suis allée. Alors, c'était une réunion, on nous avait demandé de garder toute la matinée. On devait être 30, on était 13. On nous a dit que les personnes qui n'étaient pas là seraient radiées. On nous a aussi expliqué que maintenant, le contrôle qui avait lieu tous les 6 mois allait passer à un contrôle qui aurait lieu à peu près une fois par mois. On nous a dit que la CEDIC nous convoquerait aussi régulièrement pour vérifier si on cherchait bien du travail et puis si on était bien dans les règles, que le gouvernement avait donné l'autorisation, enfin c'était octroyé un droit, de faire intervenir l'inspection du travail auprès des demandeurs d'emploi qui seraient convoqués, à qui on demanderait certaines choses, et s'ils ne correspondaient pas à la demande, quoi, aux demandes, ils seraient immédiatement radiés. Avant cette ouverture de la chasse, on nous a expliqué qu'elle avait lieu, donc cette ouverture de la chasse aux chômeurs, parce que prochainement, il y aurait des élections. Donc, je trouve qu'on nous a dit les choses bien clairement. Voilà, la chasse est ouverte. Et on lâchera pas prise, hein. Moi, je serai présente au poste. Ça se passe à Narbonne. On nous a expliqué aussi qu'il y avait de moins en moins de travail, de plus en plus de chômeurs, mais qu'il fallait qu'il y ait en fait sur les listes, de moins en moins de chômeurs, donc qu'ils allaient faire ce qu'il fallait pour nous radier.
Je voudrais saluer ici les progrès faits en peu de temps par les journalistes français, y compris sur le service public, ici à France Inter. Quand des hommes et des femmes étaient morts dans les immeubles parisiens en flammes, nous n'avions pas eu beaucoup de détails, de précisions sur les personnes qui étaient décédées. Le progrès est très net en ce qui concerne les 7 personnes décédées dans l'Himalaya. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. On sait les noms, on sait ce qui s'est passé. Comment ? Les 11 Sherpas ? Ah oui, les 11 Sherpas. Tiens d'ailleurs, oui, pourquoi ils grimpent, les 11 Sherpas ? Pourquoi ils ont grimpé ? Pourquoi ils sont morts ? Allez, bon courage à toute l'équipe. Vos émissions sont remarquables, de plus en plus remarquables. Remarquez, il y a de quoi, hein. Je vous embrasse tous. Salut.
Oui, eh ben, c'est Dolores de Montpellier, puisque on a commencé, c'est aujourd'hui la première soirée du repère des amis de la Basse J'y suis, au café de la Pleine Lune à Montpellier. Et il y a déjà 35 personnes qui essayent de trouver des places et les gens continuent d'arriver. Il y a de l'enthousiasme. Je vous laisse entendre un petit peu l'ambiance. On remue les tables et les chaises parce que le café n'est pas très grand, mais il y a du monde qui veut faire quelque chose et on ne sait pas encore quoi. Tout est à créer, tout est à inventer. Voilà, je pense que les gens sont contents d'être là et contents que quelque chose se passe. Eh bien, je vous donnerai d'autres nouvelles. Au revoir.
Eh bien, c'est des bonnes nouvelles qu'on a eues par la suite de ce repère des amis de la Basse J'y suis de Montpellier, la Pleine Lune. Oui, on a de très bons échos, on sait que c'est un bon endroit. On a un techno là aujourd'hui qui est de Montpellier et qui connaît cet endroit sympa. Pas si grand que ça d'ailleurs, 35, ça devait faire quand même pas mal de monde. Voilà, c'est parfait, ben, continuez à créer des repères des amis de la Basse J'y suis. Vous trouvez un endroit qui vous plaît, un patron, une patronne sympa, vous voulez devenir le correspondant des repères des amis de la Basse J'y suis, vous nous appelez pour qu'on discute, pour qu'on voit, pour qu'on discute avec le patron, avec la patronne, avec vous, etc. Et puis, hop, on lance l'affaire. Le but, c'est que ce soit des endroits ouverts où tout le monde peut venir, non pas seulement des petits clubs fermés pour les mêmes avec les mêmes. Là, on sort d'en prendre. Avec Neuilly, on va y retourner. On préfère un petit peu quand même de mixité, de mélange et qu'on puisse échanger comme ça des quelques propos. Après, ce que vous faites ensemble dans ces bistrots, ça ne nous regarde pas au fond. Hein. Si vous avez envie de faire la révolution, changer le monde, vous occuper d'une cause locale, d'un truc, d'un autre, ça c'est après, c'est à vous les initiatives. Nous, on n'est que les instigateurs, hein, puisque ces mystères nous échappent. Feignons d'en être les instigateurs. Autre message encore sur le répondeur. Il y a eu beaucoup, beaucoup de messages ces jours derniers, alors aujourd'hui on se rattrape.
Salut Daniel, on est à Nantes, on sort d'une manif contre la construction d'un établissement pénitentiaire pour mineurs qui se construit à côté de Nantes, on était au moins 300. Donc voilà, c'est le début de la lutte, il n'y avait pas énormément de monde, on était que 300, mais on espère bien qu'il y a du monde qui va nous rejoindre et qu'il va y avoir des actions d'envergure contre cette saloperie de centre. Donc voilà, la prochaine réunion du collectif, on rappellera d'ici là, mais c'est le jeudi 10 novembre à 20h30, à la maison des syndicats, 8 places de la gare de l'État à Nantes. Voilà, bon bah à bientôt.
Bonjour, c'est Sybille Pfister, j'habite Vabre-Tisac dans l'Aveyron. Donc, Ovik est un petit Arménien qui a 5 ans. Il est scolarisé à l'école maternelle Haute-Guyenne, à Villefranche-de-Rouergue dans l'Aveyron, depuis 2 ans. Il est actuellement en classe de grande section, je suis sa maîtresse. Bien intégré au sein de la classe et de l'école, Ovik suit les apprentissages assidûment. Il sait ce que l'on attend de lui à l'école, mais ne sait pas encore ce qu'il attend. Il serait regrettable que ce jeune garçon soit renvoyé d'un pays qu'il a investi et où il est intégré pour des raisons administratives et politiques. Ovik n'est pas le seul à souhaiter s'investir dans la vie sociale et scolaire. Sa maman accompagne les enseignants et les enfants pour certaines sorties scolaires et n'a pas de difficulté à participer à une conversation en français avec moi. C'est pourquoi les efforts d'intégration entrepris par la famille ne doivent pas être ignorés. Une expulsion du territoire français serait profondément déstabilisante et destructrice pour Ovik et sa famille. Partir de son pays d'origine est déjà un acte traumatisant. Que dire de l'expulsion de son pays d'accueil? Voilà, c'est la lettre de soutien que j'ai rédigée pour lui et sa famille. Merci.
Bon, mais c'était pour réagir à l'émission d'hier. Et c'était juste pour dire qu'il y a un peu plus d'un an, on recherche un appartement. Et qu'un agent immobilier nous a fait le commentaire suivant, mais très sérieusement, pas dit comme un propos raciste, dit comme un propos normal et rationnel. On préfère louer à des gens comme vous, alors vous désignez moi et mon ami, vu qu'on est homo, qu'à des arabes. Alors le conseil, c'est si vous cherchez un appart, tâchez d'être blanc et hétérosexuel, c'est plus facile si vous êtes arabe et pédé. Dans ce cas-là, bon courage. Voilà. Ben, merci pour votre émission, et puis en espérant que la main-d'œuvre immigrée qu'on était bien content d'avoir il y a 30 ans, on ait encore un peu de cœur pour la loger 30 ans après. Voilà, merci.
Quand est-ce qu'on va se mettre à l'électricité solaire? C'est tellement simple. Moi, je suis installé depuis 25 ans. J'ai jamais eu de problème. Ça marche d'enfer. Je trouve la plupart des appareils en 12 volts. Bon, bien sûr, faut investir. Mais ça serait vraiment l'alternative à cette saloperie de nucléaire qu'ils veulent privatiser. J'ai vraiment la trouille. Et puis, je voudrais que les gens prennent vraiment conscience que vraiment, c'est l'avenir. Et qu'ils investissent, comme moi, dans l'électricité non nucléaire. L'électricité solaire. C'est vraiment l'avenir. Et maintenant, tout mon investissement, ça fait 15 ans que je paye plus d'électrique. Et j'emmerde pas la planète. Je prends aucun risque.
Bonjour à tous. Eh ben voilà, après avoir interdit les rassemblements des jeunes dans les escaliers, notre magnifique gouvernement interdit le rassemblement des volailles autour des points d'eau. Mais où va-t-on?
Oui, bonjour. Eh bien, là, j'écoute la résidente de Neuilly. Et pendant cela, près de chez moi, à Paris, bien, ça continue. Il y a des gens qui sont menacés d'expulsion dans un petit hôtel au 69 rue des Haies. C'est une rue qui est en pleine reconstruction, on est en train de construire des logements sociaux. Hein. Mais bizarrement, ces gens, ils ont toujours pas été relogés dans tous les logements sociaux qui ont été construits dans la rue. Et apparemment, il n'y a rien de prévu pour eux. Et ils sont menacés d'expulsion, voilà. Et eux, ils veulent pas, évidemment. Et leurs enfants sont scolarisés dans la même école que les miens. Et je les croise tous les jours et voilà, c'est des boules. Alors, s'il y a des Parisiens qui peuvent venir jeudi 27 à 18h au 69 rue des Haies, à l'hôtel Réuni, et voir ce qu'on peut faire avant que le pire n'arrive. Voilà, merci. C'était Françoise de Paris.
Bonjour à Daniel et à ton équipe. À l'antenne, Armand Conan, ancien maire communiste d'une équipe de gauche de Kerkiran, 71-83, station balnéaire entre Toulon et Hyères, qui devient de plus en plus ultra-résidentielle. Exemple, le prix du mètre carré habitable se situe aujourd'hui entre 4 500 et 6 000 euros. Les équipes de droite qui se sont succédées depuis 83 font feu de tout bois pour que Kerkiran soit réservé non pas à ceux qui ont des moyens financiers, mais à ceux et à celles qui ont de très gros moyens financiers. C'est une sélection par l'argent qui s'opère. Ceux et celles qui n'ont pas ces moyens sont priés d'aller chercher ailleurs. Le maire actuel justifie cette politique par un argument massu. Il faut protéger la qualité de vie à Kerkiran. Déclaration publique du maire au conseil municipal de Kerkiran et à la communauté d'agglomération. Autrement dit, les habitants des logements sociaux sont à mettre dans un ghetto. Et je préfère payer les amendes légales plutôt que de construire ces logements, proclame haut et fort le maire. Vous noterez, Daniel Marmet, que cette argumentation rejoint celle de Sarkozy à Neuilly. À noter aussi que les conseillers d'opposition de gauche sont mis purement et simplement au placard et que le nouveau plan d'urbanisme est élaboré dans le plus grand secret du cabinet du maire. Dans ces conditions, il est évident que les sanctions légales prises à l'encontre des maires qui refusent de construire des logements sont insuffisantes. Il faudrait que les maires récalcitrants paient de très lourdes sanctions financières, ou mieux, qu'ils soient exclus de toute aide financière par les départements, régions, États, ou mieux encore, qu'ils soient déclarés inéligibles pour refus d'application de la loi. Cerise sur le gâteau, si j'ose dire, le maire veut construire aujourd'hui un lotissement agricole en expulsant des travailleurs maghrébins.
Alors voilà, des travailleurs maghrébins expulsés, c'était l'ancien maire de Carkeyran, dans le Var. Vous dites, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais souvenez-vous, un reportage qu'on vous a présenté il y a quelques jours sur l'histoire de cette mamie de Toulon, 80 ans, qui a été expulsée un matin manu militari, et puis toutes ces péripéties qui ont fait que le préfet du Var a négocié avec les propriétaires pour que la dame soit réintégrée, etc., dans sa propre maison. Vous avez suivi cette histoire, mais il y avait une chute à ce reportage, c'est que d'autres personnes âgées, pas très loin de là, sont menacées. Il s'agit, comme l'ancien maire de Carkeyran est en train de le dire, d'une quinzaine de vieux immigrés, de vieux travailleurs immigrés qui sont maghrébins, qui sont menacés d'expulsion. D'où évidemment une indignation. On a eu des promesses du sous-préfet que tout serait fait correctement. Voilà, on voit que effectivement les affaires de logements sociaux posent quand même un problème assez grave, aussi bien à Carkeyran, charmante cité balnéaire, qu'à Neuilly, le ghetto du Gotha. Mais on a dit aussi au cours de ces émissions que expulseur, c'était un métier d'avenir. Et on croyait pas si bien dire. Voilà le point de vue de Jean-Baptiste Hérault, qui représente le DAL, le droit au logement, DAL, droit au logement, au micro d'Olivia Gesbert.
Bah écoutez, on compte en France une augmentation constante du nombre d'expulsions. 10 000 ménages sont expulsés de leur logement chaque année par la force publique. Et on a eu 100 000, peu ou prou, 100 000 jugements d'expulsion. C'est-à-dire que on a vraiment une augmentation importante du contentieux du logement, parce que les gens n'arrivent plus à se maintenir dans leur logement à cause de la cherté du logement, des loyers excessivement chers, et que d'autre part, il y a un climat spéculatif qui alimente, on va dire, une certaine cupidité des bailleurs qui veulent se débarrasser d'un locataire qui ne paye pas un loyer suffisamment cher pour eux. Et par ailleurs, on a également des expulsions de ménages très modestes, pauvres, qui n'ont pas d'autre solution pour se loger que de squatter des logements vacants, des logements vides. On a également des expulsions de locataires d'hôtels meublés, ménages aussi très modestes, souvent des émigrés. Loges de concierges, hein, qui disparaissent à toute vitesse dans les centres-villes. En gros, c'est en général les ménages les plus modestes qui sont foutus à la porte, et le plus souvent sans aucune solution de relogement, parce que il n'y a pas suffisamment de logements sociaux. Sarkozy a mis un peu l'éclairage là sur les expulsions, parce que réponse cynique aux incendies meurtriers de Paris à la fin de l'été et qui ont touché durement des familles immigrées, Sarkozy a répondu par l'expulsion. Ça a provoqué une indignation, des mobilisations, et depuis quelques jours on constate une certaine hésitation, hein, dans la volonté d'expulser. La semaine dernière, la police à plusieurs reprises a dû renoncer à l'expulsion, parce que là, ça devenait tellement scandaleux, tellement injuste. C'est un choc psychologique, c'est une spoliation, et enfin, c'est l'entrée dans la très grande précarité. Mais c'est vrai que l'expulsion se fait en silence, elle est dure, elle est traumatisante, et c'est une violence finalement qui est faite à la famille, à la personne.
Oui, c'est souvent une injustice qu'on a envie de crier, mais on ne sait pas très bien auprès de qui, j'ai l'impression. Hein.
Oui, voilà, alors après, toute la question, c'est comment on peut faire. On a vu le maire du 19e avec des militants d'associations, des mouvements de mal logés, de sans logis, des syndicalistes s'opposer lundi, il y a une dizaine de jours, à l'expulsion d'un immeuble. L'autorité publique a dit non, c'est un trouble à l'ordre public trop important. Donc une forme de résistance passive, mais qui a permis d'éviter le pire.
Mais hein. Collective en plus.
Ouais. Et collective. Ouais. Alors, je crois que c'est un peu ça la réponse.
Et ça marche, ça a marché.
Oui, ça a marché. Mmh. Il faut amener les pouvoirs publics à réfléchir autrement qu'avec ce profil libéral qui est le marché est libre, les loyers augmentent librement, et puis ceux qui peuvent pas payer, tant pis pour eux, ils s'en vont loin dans les grandes banlieues, dans les sous-bois là-bas, là où on les voit pas. Ça suffit. Là, ces derniers jours, en fait, plusieurs expulsions ont été repoussées, ont été annulées. Effectivement, l'image de cette grand-mère de 80 ans qu'on devait mettre à la rue, bon, elle a choqué parce que on dit maintenant on touche même nos anciens. Il faut arrêter les dégâts. Il y a une prise de conscience. Et donc ça, c'est le point nouveau. On commence à mettre des bâtons dans les roues, des grains de sable, dans cette machine bien huilée de l'expulsion, de ce qui amène après vers l'enfer de l'exclusion.
Voilà, mais on va aller dans un endroit où on ne risque pas de rencontrer cet enfer de l'expulsion. On va à Neuilly, on va finir ce voyage à Neuilly. Au passage, je vous rappelle les coordonnées du DAL, droit au logement. C'est 8 rue des Francs-Bourgeois dans le 3e arrondissement de Paris. Le numéro de téléphone, c'est le 01 42 78 22 00. 01 42 78 22 00. Et ils ont un site internet qui est www.globenet.org/dal. Voilà. Je suis sûr que Madame Dumont a noté l'adresse.
Oh non, c'est pas possible. Elles sont extrêmement magnifiques.
Je me fais grimper dessus là par les. Comment c'est quoi comme variété?
Jack Russell.
Jack Russell, là, qui en a une sur mon épaule gauche et l'autre qui monte sur mes genoux.
Aïe. Oui, on appelle ça des kikis de concierge, c'est pas très joli.
Ils ont une promotion aussi, les chiens. Là.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
C'est Bruno Boule de Strasbourg. Alors, je voulais réagir par rapport à l'émission de vendredi et de lundi, donc qui est, enfin, je sais pas quoi dire. Je trouve pas mes mots. Cette petite dame qui vantait les mérites de son petit chien de luxe, son petit roquet de luxe, qui était capable de s'attaquer aux rats, aux souris, formidable quoi. Enfin, roquet de luxe, si ça vous rappelle quelque chose, un roquet de luxe qui fait un tabac en ce moment. Voilà, je voulais savoir également s'il était possible de savoir, dans cette bonne ville de Strasbourg qui sent bon la choucroute et le géranium, s'il y avait un café repère. Des amis de là-bas, si j'y suis. Courage à tous, tenez bon, la vie est belle quand même. Bisous, ciao.
Le Paris du ciel, vous avez vu ce bouquin de Thius Bertrand, c'est magnifique. On découvre des choses inouïes. Hein. Comme il y a des jardins sur les toits absolument fantastiques. Dans la continuité du BCBG, voilà.
Ben, je viens d'écouter là-bas si j'y suis avec cette madame Dumont et je suis dégoûtée quoi que ces gens-là se permettent en quelque sorte de choisir qui est à sa place et qui ne l'est pas. Et ce qui n'a pas été dit aussi dans le reportage, c'est que enfin, c'est ce que j'ai lu dans un des essais de Vincent Charlot, c'est que généralement, les femmes de la bourgeoisie sont très souvent dans les DRH. Donc on explique, on comprend pourquoi l'ascenseur social est bloqué à la cave. Hein. Et moi, c'est pour une de ces raisons, parce que je suis d'origine étrangère, et que j'ai tous mes diplômes, et que j'ai pas envie de penser à mes origines constamment, à être envoyé à autre chose constamment, que j'ai l'intention de quitter le pays. Donc, et j'encourage tous les diplômés français d'origine étrangère qui ont un peu de mal à s'intégrer, s'intégrer, c'est même pas le mot, à trouver leur vraie place, quitter le pays et laisser ces gens entre eux. On verra bien comment ils débrouilleront. Bonne soirée.
C'est pas à Neuilly quand même qu'on fait l'avant-garde intellectuelle. Hein, ils ont jamais reconnu les impressionnistes. Toujours ce qui est nouveau en matière de culture, ils le reconnaissent jamais. On n'a jamais reconnu Mozart non plus, ils reconnaissent après. Même pas, c'est parce que ça fait bien. Mais c'est quand même, faut dire, c'est quand même des collabos qui disaient plutôt Hitler que le Front Populaire. C'est bien là aussi qu'on le disait. C'est pas dans le 18e où on disait ça. C'est bien à Neuilly, plutôt Hitler que le Front Populaire. Hein, c'est quoi ces gens? Si on gratte un peu dans leur famille. Bon, salut.
C'est devenu une mode, il y en a beaucoup à Neuilly, c'est vrai. Chacun son Jack Russell. Ça chasse le lézard, la souris, le rat. Ce sont des chiens à tout faire. Et très convivial, on a l'impression qu'il leur manque que la parole, c'est vrai.
Allô, bonjour, c'est Maria Coleva. Je suis cinéaste.
Et quand je suis arrivée à Paris en 71, au mois de en septembre, je suis tombée directement à Neuilly, je ne sais pas pour quelle raison, et un peu dans le 16e arrondissement, je circulais, et je vais proposer tout de suite, 2 ans plus tard, au Centre National du Cinéma, Les Chiens du 16e arrondissement et Les Chiens de Neuilly. Parce que ce qui m'avait beaucoup frappé, moi qui n'avais pas vu des chiens du tout en Bulgarie, vraiment des chiens de maison, c'était que les chiens ressemblaient énormément à leurs propriétaires. Et les propriétaires étaient prêts à t'expliquer des heures et des heures ce que représentaient ces chiens. Et en fait, il y avait une telle osmose entre le bulldog de 2 mètres et le bulldog en bas, que ça faisait un superbe satire. Mais au Centre National du Cinéma, je n'ai jamais compris pourquoi ils n'ont jamais voulu de ce court-métrage, et d'ailleurs des 2 courts-métrages. À part ça, il faut quand même dire que c'est un endroit extrêmement ennuyeux. J'ai été comme je n'avais pas un sou, donc je rosais des fleurs en été dans certaines familles. Et bref, c'est des endroits et des messieurs et dames extrêmement ennuyeux, mais tellement ennuyeux que je me suis promis toute ma vie de ne jamais retourner là-bas. Bon.
Ah non, mais écoute, tu sais, quand je peux pas sortir ma voiture et que tu dois aller chercher le mercredi les enfants à midi moins le quart à l'école et que il y a des camions qui déchargent, tu deviens folle, quoi. Ils auraient pu prévoir des aires de dégagement, tu vois. Mais il y a pas que moi, les gens sont fous.
Du coup.
Bon, du coup, j'appelle la police municipale, puis
bon. Oui, Daniel, bonjour. J'écoute avec beaucoup d'attention ton émission sur les gens qui habitent Neuilly. C'est une honte. Elle est imbuvable. Elle est con. C'est des ghettos. Elle n'a pas honte. Les lacets sont interdits. Les baskets sont interdites. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Elle me donne envie de vomir. Voilà. Continue ton émission. Je les écoute tous les jours et je les adore. À bientôt, au revoir, c'est Brigitte Dubossé.
Autrefois, les gens avaient du personnel à la maison. Il y avait quelqu'un qui était là et qui pouvait ouvrir la porte, ou des concierges. Or, les concierges, il n'y en a plus. On a des concierges automatiques dans la plupart des immeubles.
Interphones.
Des interphones, oui, moi j'appelle ça des concierges automatiques. Et les gens n'ont plus de personnel.
Oui, salut Daniel. C'est vraiment drôle le choix du sujet des habitants de Neuilly pour cette dernière émission. J'ai réfléchi à cette question de la richesse, de la vraie richesse, hein, celle des milliardaires non imposables, celle des délinquants en col blanc non poursuivables, la richesse de naissance, la richesse des relations, la richesse de l'entre-soi, hein, comme il a été dit. Et tout est dans la tranquillité, dans la bonne éducation, dans le vêtement, pour cette pauvre femme qui n'a jamais réussi à s'élever au-dessus de la veste ou des chaussures de cuir. Une richesse riche de création, riche de production ou riche de réflexion, ça, nous n'en saurons rien. Riche, c'est tout. Nous n'en saurons pas plus. Cette richesse qui comble ses possesseurs. On peut savoir ce qu'elle apporte à la société. Il fut un temps où les riches, les seuls instruits, écrivaient, composaient, créaient, inventaient. Les riches aujourd'hui sont riches par ce qu'ils possèdent, par ce qu'ils prennent aussi d'ailleurs, et plus du tout par ce qu'ils donnent. On pourrait imaginer la mort de la classe des nantis par auto-étouffement, par croupissement dans une eau stagnante. Mais attention, l'or est imputrescible, ne rêvons pas. Tant qu'il y aura des pauvres pour les servir et pour les élire aussi, ceux de Neuilly ou d'autres d'ailleurs, les riches ont un bel avenir devant eux. Les pauvres se couchent devant leurs pas et forment un tapis rouge. C'était Régine Blanquer dans les Pyrénées.
Expulsion au petit matin, la police, les huissiers, serruriers, immeubles vétustes, bidonvilles, caravanes. On expulse qui ? Oh, des vieux travailleurs immigrés, des familles africaines, des enfants tziganes, sacs plastiques sur le trottoir, matelas tordu, cris d'enfant, c'est la loi, c'est le droit, c'est la République. Il faut de la fermeté. Qui ordonne ces expulsions? Un petit monsieur qui habite ici, qui habite à Neuilly, qui habite l'île de la Jatte à Neuilly, il se lève ce matin-là et il ordonne ça, il a ordonné ça. Et ça va se faire aujourd'hui, expulsion, reconduite à la frontière, renvoi de toutes sortes. Lorsqu'on est dans un quartier comme celui-là, à Neuilly, on comprend mieux d'où viennent ceux qui dirigent, d'où viennent ceux qui ont le pouvoir, ceux qui appartiennent à l'élite. On parle des privilèges de l'argent, mais c'est une synergie de privilèges dont jouissent ceux qui habitent ces beaux quartiers. Rien de neuf, rien de nouveau. C'est la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, les conservateurs, les rentiers que nous retrouvons encore jusqu'à 18h dans Là-bas si j'y suis aujourd'hui.
Si je tombais dans la misère, dit fréquemment monsieur le baron, il y a presque des jours où je l'espère. Les gens du monde me comprendront. J'aurais enfin la vie rêvée que connaissent les pauvres gens, débarrassés de la corvée et des éternels soucis d'argent. La fortune est un esclavage. Il ne faut pas vous y tromper. Il faut beaucoup plus de courage pour vivre riche que ruiné. Dire que les ouvriers se plaignent, on se demande bien de quoi. Pour loger à la même enseigne, je donnerais n'importe quoi. Gérer sa fortune soi-même est un calvaire de chaque instant. Sans parler de la vie qu'on mène, malgré soi la plupart du temps. Les dîners chez Maxime m'écœurent. Mon foie ne les supporte plus. Les pommes de terre à l'eau sans beurre sont préférables à ces abus. Les ouvriers qui nous critiquent ne connaissent absolument pas quels bourreaux sont nos domestiques. Eux ne les supporteraient pas. Ce sont tous des gens qui nous volent, qui ne nous créent que des soucis. Et il y faut une patience folle. Ils sont tous mauvais par ici. Si je tombais dans la misère, je remercierais le Seigneur de me donner ce que j'espère. Car les pauvres gens ont du cœur. Je ne les connais que par ouï dire, mais il paraît qu'ils sont très bien. S'ils imaginaient mon martyre, ils ne m'envieraient plus de rien. Ils savourent 6 jours par semaine le plaisir du travail bien fait. Ils mangent très peu, gagnent à peine, mais ils s'en contentent. Et je sais, je le tiens d'amis très intimes, qu'avec 300 000 francs par mois, un ouvrier peut fort bien vivre et dire encore du mal de moi.
Un bijou, Michel Simon, sur ce poème, ce texte de Bernard Dimet. Donc on va finir cette série de reportages à Neuilly avec nos deux amis sociologues, Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, qui depuis des années et des années observent, analysent, recherchent tout ce qui est possible sur ce monde, donc de la haute bourgeoisie, et qui ont bien des difficultés. Ça semble, on pense que c'est évidemment des peuplades lointaines qui sont difficiles à observer. Eh ben non, tout juste là, au coin de la rue, si on peut dire, enfin, à l'ouest de Paris, eh bien, il y a un monde très difficile d'accès, même pour des sociologues patentés et patients.
C'est pas facile de travailler sur les privilégiés parce qu'ils ont tous pour devise, vous le voyez aujourd'hui.
Ils vont y revivre en cachet.
Oui, et puis en plus, c'est pas évident pour des sociologues qui se pensent être l'élite, des chercheurs du CNRS qui se pensent l'élite de notre pays, de se retrouver en situation d'enquête, en situation dominée. Finalement, les grands bourgeois, les aristocrates fortunés, à force de mettre leur argent dans les services de gestion des grandes fortunes, des banques d'affaires privées, de mettre leurs enfants dans des écoles spécifiques, privées ou publiques, d'habiter les beaux quartiers, d'habiter dans des stations balnéaires où le peuple ne va pas, d'être dans des palaces, finalement, on ne les voit pas. on finit par ignorer complètement leur existence. Même les chercheurs du CNRS ne connaissent pas bien les beaux quartiers, ce qui est quand même incroyable.
Mais parce que quand on est sociologue, on va a priori voir les victimes, pas les dominants.
Mais oui, mais s'il y a des victimes...
Les dominants et les dominés,
s'il
voilà.
y a des victimes, il faut bien qu'il y ait des... S'il y a des dominés, il y a des dominants. S'il y a des victimes, il faut bien qu'il y ait des gens qui tiennent les rênes du pouvoir économique qui aboutit à ce qu'il y ait autant de démunis dans notre pays. Et donc, il me semble que c'est bien de la responsabilité des sociologues du CNRS que précisément ne pas laisser à l'abri de l'investigation sociologique les gens qui cumulent toutes ces formes de capitaux.
Ah, quand même une petite Porsche.
Ouais.
Voilà rue de la Bordère.
Alors, on va pas se rapprocher trop du portail, parce que si on s'en rapproche trop, on déclenche le système d'alarme.
Ah bon ?
Et comme ça m'est déjà arrivé une fois, je peux vous dire que j'ai pas envie que ça se reproduise.
Qu'est-ce qui se passe si on reste trop longtemps près du portail ?
Ah mais non, c'est si on se rapproche trop, qu'on veut regarder de trop près.
Il y a un Cerbère qui arrive.
Donc voilà, ben là, c'est la plus grande fortune de France.
Ah, sauf que la famille de Bettencourt.
On voit bien l'importance de la propriété. Donc, dans cette rue de la Bordère où il y a beaucoup de grandes fortunes. Et donc, le commentaire qu'on peut faire, c'est vrai qu'on longe le mur de la plus grande fortune de France. Et en même temps, si on n'était pas là pour vous le dire, vous passeriez là en regardant vos pieds, le trottoir est un peu abîmé, vous diriez, tiens, il y a un grand mur blanc, point. C'est pas ostentatoire. Alors là, il y a donc un permis de construire qui est affiché.
Nature des travaux, extension d'une maison individuelle et création d'une piscine en sous-sol.
Ah, là, effectivement, ça trahit un certain luxe. Le panneau administratif du permis de construire nous révèle que c'est une piscine en sous-sol qui va être construite dans ce petit palais.
Oui, puis alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est le bénéficiaire, c'est pas le nom de la famille qui est affiché, parce que ces familles créent toujours des sociétés anonymes, des sociétés en commandite qui pour gérer l'ensemble de leur patrimoine.
Alors il y a un chauffeur là derrière nous, moi,
oui.
Qui vient voir ce qu'on fout.
Oui,
c'est-à-dire qu'il y a un gardien ou un monsieur qui est là, qui surveille. Oui, ouais. C'est pas normal qu'on soit en train... Déjà, des piétons dans cette rue et des piétons qui s'arrêtent devant les maisons.
Qui regardent.
Oui, c'est-à-dire que c'est quand même des très grandes fortunes, des très gros patrimoines qui sont à l'abri de regards d'ordinaire discrets et qui, là, se retrouvent face à des regards totalement indiscrets. Et c'est tout à fait normal qu'on soit attentif. Moi, j'aurais un journaliste de France Inter qui rôderait autour de ma maison.
Je descendrais voir, non ? Là, on envoie le
sbire. Je descendrais voir.
Ce que vous décrivez, ce qu'on voit, ça ressemble un peu à une serre. Vous parliez de ghetto du Gotha tout à l'heure, mais c'est un peu ça. C'est une serre où tous les éléments propices, tout l'environnement sera fait pour être propice à la reproduction d'une élite sociale, culturelle, économique et donc aussi politique.
Ben oui, c'est vrai qu'on est dans des cadres qui sont toujours beaux, qui sont paisibles, où on est agressé par rien, on est toujours dans la beauté des choses. Et comme m'a dit une de mes interviewées un jour, quand on est dans un beau cadre, on ne peut avoir que de beaux sentiments.
C'est pourquoi on dit conservateur.
Ben oui, on veut que les choses se reproduisent puisque ça se passe bien pour vous.
D'autant que ceux pour qui ça se passe mal sont loin d'ici. Et on peut très bien faire le choix de ne pas les voir en habitant ici.
Oui, encore que ce sont des gens qui sont quand même informés, cultivés, qui ont des responsabilités dans le monde des affaires et qui ont quand même une certaine conscience de ce qui se passe. Ce qui est par contre important, c'est que ce sont les autres qui n'ont pas conscience que les beaux quartiers existent et qu'ils existent en étant un peu fermés, mais pas beaucoup. Tout le monde, vous avez vu, aujourd'hui on a pu quand même se promener, n'importe qui pourrait venir, mais personne n'y vient parce qu'il y a ce que nous appelons la violence symbolique, c'est-à-dire des jeunes des banlieues viendraient pas là parce qu'ils se sentiraient vraiment trop mal, intimidés, ils partiraient.
C'est pas des vues de l'esprit. Si on imagine un prolétaire entrant dans un bar de Neuilly ou du 16e arrondissement, il va pas être à l'aise. Bon, mais inversement, un bourgeois qui va entrer dans un bar de la Goutte d'Or ou du boulevard Richard Lenoir ne va pas être à l'aise non plus. C'est-à-dire qu'on se sent bien avec les gens qui vous ressemblent, qui parlent la même langue que vous déjà. Une intonation, un certain vocabulaire, une certaine manière de parler. Tout ça fait que on est plus ou moins bien suivant la proximité sociale, en fait, des gens avec qui vous êtes. L'éloignement social, c'est un malaise dans le contact. Il y a des tas de manières d'être qui sont désagréables, choquantes pour les gens de Neuilly qui ont les moyens de tenir à distance les gens qui ne leur ressemblent pas et qui sont de cette façon certains de côtoyer des personnes qui leur sont adaptées.
C'est-à-dire que tout est fait pour que ceux qui ne sont pas d'ici ne se sentent pas à leur place.
Exactement, c'est exactement ça. Au fond, c'est un véritable entre-soi résidentiel, c'est un véritable ghetto, donc il n'y a absolument rien d'anormal à ce qu'on trouve une communauté idéologique et politique partagée par des gens qui sont éduqués de façon semblable, qui partagent les mêmes valeurs. C'est le contraire qui serait bizarre. Et c'est donc la droite traditionnelle. Le Front National fait des scores en dessous de la moyenne nationale.
Voilà.
Hein, c'est la droite aujourd'hui, UMP, UDF, qui fait des bons scores.
Ah voilà, maintenant on est décidément complètement sorti de l'urbanisme. Là on est dans la verdure, on a traversé, donc on est au bois de Boulogne.
On a juste traversé une rue et on se retrouve au cœur du bois de Boulogne. Et donc là on va s'approcher d'un cercle, parce que le bois de Boulogne c'est un bois public, très cher aux Parisiens, mais où il y a plus de 25 hectares d'enclaves privées. Et ces enclaves privées sont réservées à une certaine population. Donc on vous propose de nous approcher de ce cercle.
Nous ne nous perdons pas dans le bois. Donc on voit des traces de sabots dans le sable.
Oui, parce qu'il y a des chevaux. Le matin, il y a toutes sortes de choses qui se passent. On peut parler des chevaux, il y a beaucoup d'autres activités que je censurerai pour vos auditeurs.
Et c'est ça, il
n'y a
pas...
Un interview.
Si vous voulez. C'est quoi votre petit nom d'ailleurs?
Mon nom de guerre, c'est Pascal.
On se balade dans Neuilly.
Oui.
Parlez-moi de votre Neuilly alors.
Ah, c'est pas mon Neuilly, hein.
C'est vrai?
Ah non, c'est pas mon Neuilly. Moi, c'est plutôt mon Neuilly de mon temps. Neuilly, ce sont des gens retraités qui ne sortent pratiquement pas, qui sont à part. Enfin, moi, j'ai juste comme ça. Mais eux aussi, ils doivent penser ça de moi.
Oui. Bah, vous dites ça parce que vous êtes assis sur une chaise là?
Oui.
Face à la route.
Mmh.
Il n'y a pas trop de passage aujourd'hui.
Non, mais France y fait. On peut pas tondre un œuf.
Vous dites prostitution, vous dites travailleuse du sexe, vous, parce qu'il y a différentes appellations aussi.
Je dis pute. Direct, c'est mignon, c'est gentil. Prostitution, c'est laid.
Ouais.
Travailleuse du sexe, alors ça n'a même pas de nom, c'est colcosien. C'est vraiment colcosien. Non, je dis pute. Mes copines aussi.
Mais comment ils vivent ça, les voisins? Parce qu'eux, apparemment, ils aiment pas être beaucoup confrontés à la différence.
Bah, vous savez, je dérange pas vraiment. Je suis dans le 16e, je suis pas dans Neuilly.
Ah, c'est vrai qu'on est là, en face de la frontière.
Je n'ai pas une tenue...
Comment on dit, ostensible ou ostentatoire?
Non, non, non. Seul mon regard irrésistible. Non, je suis petit client, je suis discrète. Ouais. J'ai pas d'histoire avec les gens de Neuilly.
Ouais. Et il y a des gens d'en face qui viennent ou pas?
Il y a un peu de tout, même les gens d'en face. Ils font le tour, quand même. Je peux comprendre. Bah, parce que, si quelqu'un les voit, quand même, je ne veux pas être un sujet de conflit pour quelques euros. C'est pas la peine, s'ils ont leur faim, à quoi bon étaler?
Là, je me balade avec monsieur et madame Pinson, qui sont deux sociologues. Sauf que eux, leur terrain, c'est les riches. C'est pour ça qu'on se baladait dans Neuilly en disant, finalement, c'est le ghetto des riches.
C'est exactement le mot. C'est un ghetto. C'est tellement... Et ils veulent se ghettiser encore plus. Ils n'en ont pas assez comme ça. Ça se voit, j'ai habité par expérience 2 ans à Neuilly. J'ai vu. Merci, au revoir. Je ne recommencerai pas, non, non. D'une part, je me sentais pas à l'aise. De l'autre part, on est sans arrêt obligé de mentir sur sa profession, sur sa vie.
À dire pute en Neuilly, c'est vrai que ça peut pas très bien être
pris. Je l'ai dit.
Ah bon?
C'était une comtesse. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites comme métier? L'œil aguicheur, quand même. J'ai dit, pute, en face, hein. Il dit, vous êtes merveilleuse.
Ah oui?
Oui. Mais les vrais riches ne s'en offusquent pas. C'est les nouveaux riches qui... C'est pas bien.
Et à propos des élections, est-ce que vous savez si on le regrette ou pas, Sarkozy, ici?
La réponse est contenue dans la question.
Je me contente de cette réponse.
Oui, j'ai rien dit, vous voyez, je ne m'oublie pas. Hein. Quand on me parle de ça, je ne sais pas pourquoi. Ça me donne des petits boutons, je me garde. C'est un enculé.
Bon, bah, merci beaucoup, madame Pascal.
Voilà.
Passez une bonne journée.
Bah, peut-être qu'on se reverra.
Oui, oui, je ne vais pas vous retenir.
Une question indiscrète, mais la chaise, et avec
un coquin. Petit coquin. Je vois vos yeux lubriques me regarder.
Pas du tout. C'est les lunettes qui font ça.
Ouais. Non, je la cache. Quand je fais un client, je l'amène.
Vous voyez pas repartir avec moi aussi.
Non, héroïque, mais pas téméraire.
Bonne journée.
Au revoir, Yves.
Au revoir, merci.
L'élément perturbateur de toute la vie. Oui. Oui, je suis en interview. C'est France Inter, je crois.
Oui.
Ils passent, ils vont peut-être t'interviewer aussi. Ah bon? Non. Non. Oui. Ouais. Oui, tu les prends. Si tu seras. Et je gèle aussi. Ouais. Au revoir, ma gueule.
Voilà, merci à tous. Merci Madame Pascal, vous nous avez appris qu'on ne peut pas tondre un œuf et c'est quand même beaucoup pour aujourd'hui. Merci aussi à Madame Dumont qui habite à quelques pas. Merci à Monique et, Michel Pinson-Charlot. Je rappelle leur dernier bouquin, Château et Châtelaine aux éditions Anne Carrière. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, y compris les coordonnées des repères des amis de là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Clotilde Thomas et Eric Morin, réalisation Antoine Chao et Yann Chouquet, assistante Pascal Pascariello. Le répondeur c'est Christophe qui s'en occupe, Christophe Imbert, et le numéro c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, et le mail de l'émission c'est Daniel .mermet@radiofrance.com. Ainsi s'achève cette modeste émission géniale pour aujourd'hui. Demain, si tout se passe bien, on rencontrera, on retrouvera, enfin pour moi, mais pas pour vous, vous découvrirez au moins le journaliste anglais, britannique, Robert Fisk, qui sort ce bouquin dont je vous ai déjà parlé hier, formidable, qui s'appelle La guerre pour la civilisation, un énorme pavé formidable dont on parlera demain. D'ici là, réclame.